Radio Sainte-Baume, 88.9.
De vous à moi, eh bien aujourd'hui, de vous à moi avec Madame la Sénatrice Christine Lanfranchi-Dorgal, de vous à moi avec Monsieur le Maire, Monsieur Orange Lanfranchi. Une journée exceptionnelle, bien sûr, qui prévoit et qui présage, bien sûr, de nombreuses activités dans notre belle ville de Saint-Maximin et sa région. Aujourd'hui en studio, nous avons le plaisir d'avoir Anne-Marie Lamien qui est bien sûr organisatrice de nombreux événements dont la foire au Santon, on en parlera. Nous retrouverons le commandant de gendarmerie, le lieutenant Benoît, et puis au téléphone, nous aurons le représentant des voisins vigilants, ce sera monsieur Vincent Dujardin qui est le président du CIQ du Chemin du Moulin, et puis il est aussi porte-parole des voisins vigilants, ce qui est quand même important. Nous rappelons bien sûr que Madame la Sénatrice, bien sûr, avec ses nombreux voyages parisiens ou, bien sûr, avec ses réunions dans notre région, on va parler un petit peu de l'actualité politique, mais aussi, avec Monsieur le Maire, nous allons aborder certaines, donc, turbulences. Et donc, je pose la question à vous deux, donc, Madame et vous, Monsieur, dans le vif du sujet, les turbulences de l'agglo. Il paraîtrait que l'élection du Conseil de la communauté d'agglo a eu lieu le vendredi 10 novembre. Il y a eu quelques réactions. Est-ce que, donc, il y aurait quelques problèmes entre les deux grandes villes varoises, Saint-Maximin et Brignoles? Est-ce que cette opération agglo Provence Verte, pour nous qui sommes des profanes, on voudrait savoir s'il n'y a pas eu des anomalies, des injustices, enfin, est-ce que tout a bien fonctionné? It is questioned.
C'est une excellente question. Bonjour à toutes les auditrices, à tous les auditeurs de RSB. Je sais qu'ils sont nombreux. Merci RSB de nous accueillir encore une fois sur ce temps d'antenne. Et nous attaquons dans le vif du sujet. Le contrat moral brisé au sein de l'agglomération Provence Verte. Alors juste un petit peu d'histoire, hein, ça va être très bref si j'ai le temps, Jean-Marc. Quand la fusion a été décidée, et avec une date de 1er janvier 2017, nous avions travaillé au préalable, pendant 6 mois, voire une année, les 3 présidents de communautés de communes qui fusionnaient. Comté de Provence, représenté par Madame Ponce, Val d'Isol, représenté par Monsieur Morin, et Sainte-Baume-Aurélien, dont j'étais la présidente. Nous avions travaillé sur, bien sûr, les statuts et la façon d'entendre aller fonctionner ce qui aurait dû être un formidable outil et qui devient un outil, ou peut-être même plus un outil. Et nous avions décidé quelques préalables pour que cette agglo soit génératrice d'équilibre, d'équité et d'honnêteté. Et le premier de ces préalables était que les vice-présidences devaient être partagées en nombre, avec des critères par rapport au nombre d'habitants, au nombre de communes, 6 pour Comté de Provence, 5 pour Sainte-Baume-Aurélien, et 4 pour Val d'Isol. Ceci était le contrat moral auquel tout le monde avait adhéré. Alors c'est vrai que si ce n'est pas écrit, j'espère que quand même, quand une parole est donnée, elle est respectée, parce que ça, c'est le début de tout contrat écrit. Respecter sa parole donnée. Et vendredi,
oui,
nous allons au conseil d'agglomération. Tout le monde sait que par la loi du cumul des mandats, j'ai été obligée d'abandonner mon poste de maire mon poste de vice-présidente en charge de l'habitat à l'agglomération Provence Verte. J'écris donc à la présidente et je lui propose consensuellement que le maire de Saint-Maximin, la deuxième ville à égalité avec Brignoles, ait une vice-présidence. On me répond avec beaucoup d'assurance, je dirais, mais bien entendu. Bon, nous arrivons donc le vendredi matin. J'avais pris la tâche d'appeler Madame Ponce, la présidente, pour lui demander la veille, l'avant-veille, déroulé était OK. Elle ne me répond pas. Je lui envoie donc des SMS auxquels elle ne répond pas non plus. Donc nous arrivons des innocents dans l'arène de ce conseil d'agglomération. Et à notre grande surprise, mon père se porte candidat, puisque c'était le contrat qui avait été passé.
Bien sûr.
Et il y a un autre candidat. Bon, je ne parlais pas de M. Décanis, qui lui a été complètement dans son rôle, hein, son rôle d'opposition. Il a fait ses voix. C'était tout à fait normal qu'il se présente. Et on a un élu de Roquebaron, ancienne communauté de communes Val d'Isol, qui se présente au mépris de tout ce qui avait été dit au préalable de cette fusion. et par miracle, il est élu.
Et alors comment ça se fait? Alors c'était prévisible, ce qui veut dire qu'il y a eu un petit travail de, on va dire, souterrain et de sapage de votre de cette opération.
Alors, bien qu'on m'ait dit non, parce que quand je suis arrivée, j'ai quand même, à 9h, quand je suis arrivée, j'ai dit à Madame Ponce, j'ai dit, Josette, tu n'as pas répondu à mes SMS, mais je suppose qu'il n'y a rien à en redire. Ah non, pas du tout. Donc je m'assois tout à fait rassurée. Bon, Monsieur Félix est élu, 27 voix, donc ceux qui ont voté pour lui se reconnaîtront. C'est pas forcément des gens qui l'apprécient, mais ils ont quand même voté pour lui. Alors, ils obéissent à quelle règle, à quel chantage, je n'en sais rien. En tout état de cause, Saint-Maximin est privé de vice-présidence. Le contrat moral qui avait distribué les vice-présidents par ancien territoire est brisé aussi. Dans ces conditions-là, nous ne pouvions pas rester au sein de cette agglomération où sont bafoués tout principe d'honnêteté et d'apaisement qui doivent régir à une communauté d'agglomération pour qu'elle fonctionne de la meilleure façon possible. Alors, et je voudrais juste terminer pour sur l'opposition Brignoles-Saint-Maximin. C'est trop facile. C'est trop facile. Il n'y a aucune opposition entre Brignoles et Saint-Maximin. Si j'avais été présidente de l'agglomération en 2017, je peux vous assurer que toutes les villes et villages auraient été traités de la même façon. Et moi, contrairement à ce qu'on peut penser, j'aime Saint-Maximin, mais j'aime Brignoles aussi, et j'aime tous les villages de ce territoire.
Bien sûr, mais alors maintenant, il va y avoir quelques résultantes, il va y avoir donc des problèmes, on donnera plus de budget sur Brignoles que sur Saint-Maximin. Qu'est-ce qui va se passer là? C'est parce que nous attendons là, ça c'est le discours politique, mais sur le terrain, ça va se former comment? Ça se formaliser comment alors?
D'après ce que je comprends, effectivement, nous sommes dans une situation extrêmement tendue du fait que ceux qui aujourd'hui actuellement ont les rênes de l'agglomération Provence-Auvergne ne veulent aucun apaisement. Sauf que il y a des statuts, il y a des lois dans une communauté d'agglomération. Personne ne peut être privilégié par rapport à d'autres. Si nous allons rester très très vigilants à toutes les délibérations qui vont être votées, et si nous pensons que quelques villes que ce soit, et je ne parle pas que pour Saint-Maximin, est lésée, nous en référerons aux autorités compétentes.
Nous allons passer bien sûr sur d'autres sujets. Je vous remercie, Madame la Sénatrice, de nous avoir.
Avant, j'aurais aimé que le maire de Saint-Maximin, figure du département, s'exprime pour qu'il dise aux habitants de la Provence verte quel est son sentiment sur cette attitude honteuse.
C'est ce que j'allais proposer du reste.
Oh, je devrais être embauché à la radio. Merci Jean-Marc.
Merci. Monsieur le maire.
Merci beaucoup, bonjour à tout le monde. Votre duo est tellement prenant qu'on en avait oublié, ou presque, qu'on était à la radio. Merci à Sainte-Baume de nous accueillir une fois de plus. Sans vouloir en rajouter sur cette affaire de manque de paroles données, moi j'ai pour habitude de respecter les gens parce que je souhaite qu'eux-mêmes me respectent. Quand j'ai eu à remplir certaines tâches, j'ai respecté toutes les communes, et y compris les communes rurales, dont peut-être nous aurons à reparler un peu plus loin. Mais là, nous sommes allés à cette élection pensant que la chose était réglée, puisque c'était écrit.
Oui, c'était écrit, c'était prévu. Acté,
et je n'imaginais pas ce jour-là que l'on bafouerait ainsi une parole donnée. C'est ce qui me choque le plus, parce que je sois élu ou battu, chacun comprendra que ce n'est pas ça qui va m'empêcher de vieillir sereinement et de dormir sereinement. Mais par contre, quand ceux qui ont la charge de gérer manquent à leur parole, ça commence à être difficile à comprendre. Et puis, cet agglo, moi, j'aurais aimé qu'elle eût au moins quelques véritables projets et qu'on ne s'enlise pas dans des affaires de petites politiques partisanes, locales, où les gens regardent leur nombril et ne s'intéressent qu'à leur ego, qui quelquefois, semblerait-il, est surdimensionné. C'est ça que ma réflexion. Parce que Ce que je souhaite, moi, c'est qu'on s'intéresse à l'intérêt général.
Bien sûr.
Et pas du tout à la pointure de mes chaussures ou bien à la qualité de ma coiffure. Pour moi, c'est très facile. Vous pouvez en juger. Je suis coiffé dès le matin et je suis toujours coiffé dès le soir.
Un gentleman.
J'ai pas de cheveux. Donc, c'est simple. Alors, il faudrait quand même qu'à un moment donné, chacun sache raison garder et puisse, qu'on puisse en fait, peut-être, c'est un souhait que je formule, travailler dans l'intérêt des habitantes et des habitants de cette agglomération.
Monsieur le maire et madame la sénatrice, nous ferons la chose suivante, c'est qu'au cours des mois prochains, nous reprendrons un petit peu, on fera un warm-up si vous me permettez, et on reprendra un petit peu ce qui a été fait ou ce qui devait être fait, et bien sûr, sans votre présence, peut-être, on aura un bilan du négatif ou du positif, mais vous, je sais que vous serez bienveillant, monsieur Lanfranchi, sur cette opération. Nous allons donc rappeler aussi que cette nouvelle députée, madame Valérie Gomez-Bassec, a réuni les maires de la 6e circonscription donc pour le 31 octobre. Avez-vous répondu à son invitation et trouvez-vous que cette initiative est positive, s'il vous plaît, monsieur le maire?
Alors, réponse en deux temps. La première, l'initiative de notre député m'a paru tout à fait dans un cadre de démocratie que l'on connaît. Vous savez mon attachement à la démocratie, à la République, et j'ai trouvé qu'il était parfaitement intéressant qu'elle nous invite. Et bien entendu, nous nous sommes rendus avec Christine à l'invitation de notre député, et je dois dire que l'échange que nous avons eu, parce qu'il y avait quand même beaucoup de maires, était un échange constructif où elle a parfaitement, si je peux dire, mis chausser les chaussures d'un député qui veut s'intéresser à son territoire. Et de l'échange que nous avons eu, elle nous a engagé à lui soumettre les quelques soucis que nous pourrions avoir, entre autres, et on peut avoir quelques soucis financiers au regard de ce qu'on nous prépare. Je crois que quand on reparlera de
oui, bien sûr.
Nous aurons l'occasion d'y revenir. Ça fait deux sujets sur lesquels je vous propose de revenir. Après, je ne vous proposerai plus de revenir sur quoi que ce soit. Sinon, ce soir à 18h, nous sommes encore là. Mais quand même, il s'agit là d'une rencontre très positive, et je ne suis pas le seul à le signer, parce qu'il y avait des maires, on va dire, de sensibilité totalement différente qui étaient présents, et tous ont salué l'initiative de notre député.
Eh bien, madame Valérie Gomez-Bassac, je tiens à vous le dire, on va donc vous donner un bon point.
Ah, merci. Oui, je veux juste rebondir sur ce que vient de dire mon père, qui était invité en tant que maire. Moi, je me suis présentée aussi à cette réunion. Et madame Bassac, loin d'en prendre ombrage, au contraire, a été ravie que nous nous rencontrions. Il y avait deux parlementaires pour les maires. Mais elle a bien chaussé ses chaussures de députée sur la 6e. Oui, elle est vraiment très très ouverte et pas du tout fermée à ce que d'autres élus de tendances différentes viennent travailler avec elle, au contraire.
Ce qui prouve que la parité est utile, chère madame. Merci. Madame la sénatrice, vous arrivez donc du Sénat et vous avez eu quelques petits projets de loi adoptés. Il y a eu le feu vert du Sénat vers l'exploitation des hydrocarbures. Vous avez peut-être eu des petits soucis ou des problèmes sur les budgets, sur l'augmentation de la CSG pour les retraités, surtout que ça, c'est utile des fois d'en parler, et d'autres dossiers. Pourriez-vous nous dire un petit peu, en général, l'activité qu'il y a eu auprès de vos travaux au Sénat?
Alors là, nous sommes en plein vote de projet de loi pour le financement de la sécurité sociale, donc le PLFSS. Et effectivement, nous avons beaucoup d'articles à voter. Il y en a qui sont plus emblématiques que d'autres. Effectivement, il y a aussi la loi de finances qui arrive avec la CSG pour les retraités, vous l'avez dit. Le groupe LR, d'ailleurs, s'est prononcé contre cette augmentation. Hein. Et puis, plusieurs autres... Vous parlez aussi des hydrocarbures, l'exploitation, la fin de l'exploitation des hydrocarbures en France. Ça ne représente que 1% de l'exploitation, mais c'est quand même un geste symbolique pour qu'on aille vers des énergies nouvelles, qui est très important. Il y a eu aussi le problème des véhicules diesel et essence. Donc les véhicules diesel vont être taxés beaucoup plus. Mais ce qui est dommageable, c'est que on ne soustrait pas. On fait beaucoup d'additions, mais il n'y a jamais de soustraction. C'est-à-dire que les véhicules essence qui aujourd'hui sont plus vertueux quand même que le diesel, hein, puisqu'il paraît que ça pollue plus, eux ne subissent aucune baisse de taxes. Donc on augmente d'un côté, ça c'est la loi, la nouvelle loi de finances qui finalement ressemble beaucoup aux autres, mais en fait on ne baisse pas ailleurs. Et ça reste un peu compliqué à expliquer, bien qu'il y ait des efforts, c'est vrai, de travail sur cette loi de finances avec un budget qui va être très important puisque c'est le premier budget de M. Macron et qui va engager son mandat. On se rappelle pour M. Hollande, son premier budget de quinquennat l'a coulé en quelque sorte. Si M. Macron se loupe sur ce budget, Ça va être compliqué,
surtout qu'en fait, là, on va parler, on ne fera pas trop long, mais l'histoire des véhicules diesel vont toucher aussi le monde rural et les agriculteurs.
Alors non, ils ne sont pas concernés.
Non, mais...
Il y a des professions qui ne sont pas concernées, encore heureux d'ailleurs, parce qu'alors le monde rural s'y subit toutes les conséquences de nos lois, il y a longtemps qu'ils auraient
claqué sous la porte. Donc tout le monde va se déclarer agriculteur, alors. Bien, par contre, on a eu, il y a quelques jours, à la télévision, on a vu un Alain Juppé heureux, souriant, serrant la main du président. Qu'est-ce qui se passe là? Il a l'air de vouloir un petit peu remonter en surface, le Juppé, avec ses amis. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je crois qu'aujourd'hui, sans réduire à l'enthousiasme de Juppé, je crois qu'aujourd'hui, M. Macron, qui va fonder son parti, donc qui va devenir un parti au 1er janvier, hein, avec un porte-parole, je crois que M. Macron, il lui faut du monde, il lui faut l'enthousiasme qu'il a généré avec des nouvelles personnes, mais il lui faut aussi des personnes qui étaient là depuis longtemps. Donc, il est en train de travailler, ce qui est tout à fait normal, à fédérer ailleurs que dans son propre parti.
Alors donc, peut-être qu'aussi en sous-marin, quand on voit arriver Juppé, on voit derrière son poisson pilote Bayrou, alors.
Alors je dirais pas que Monsieur Bayrou est son poisson pilote. Non. Mais effectivement, parce qu'il y a eu une polémique là récemment. Il y a eu une polémique. 100 militants quittaient le parti de Monsieur Macron. Après, il est en train de fédérer ailleurs.
Ouais,
hein,
c'était
le voit.
Un côté humoristique, ouais. Humoristique. Vous savez,
non, mais quand même.
Faites, Monsieur
le
maire.
Pour revenir à Alain Juppé. Tout le monde sait la sympathie que j'ai pour Alain Juppé. Et là, il est tout à fait dans son rôle. C'est un homme d'ouverture, Juppé. Mmh. C'est pas quelqu'un qui cadenasse. Mmh. Et plutôt que de se mobiliser dans une opposition dure et dure qui ne servirait à rien, et qui servirait sûrement pas notre pays, il essaye de comprendre. Et je ne trouve pas sa démarche après qu'il ait...
Et ce serait pas aussi un tsunami qu'il a eu avec sa première adjointe qui, elle, a rejoint Wauquiez? Non, il n'y aurait pas encore un petit nom? Non, je ne pense pas que ce soit ça.
Alain Juppé a voulu mettre un peu de sel monotonie politique.
Oui, bien sûr, il faut mettre un petit peu de jeunesse dans cette politique. Il est là pour le prouver. Nous allons donc rappeler un petit peu aussi qu'il y avait quelques éléments comme Gérard Darmanin, Sébastien Lecornu et Solaire et Restier. Ils s'en vont, c'est normal ça? Qu'est-ce qui se passe là dans ce grand parti?
Moi, je crois qu'effectivement, quelqu'un qui rejoint un autre parti ne peut pas rester dans le parti précédent. Ça me paraît tout à fait normal. Que les LR excluent de leur parti quelqu'un qui appartient au parti de M. Macron, je vois rien de choquant là-dedans. Mais il reste quand même le problème de M. Édouard Philippe aussi, qui devrait être exclu de son parti. Non, mais c'est une procédure normale dans tous les partis. Là, il n'y a rien à dire, c'est logique, c'est normal,
enfin,
c'est pas du tout choquant.
Pourvu que la France soit bien gouvernée, c'est l'essentiel.
On a peut-être pris le problème à l'envers dans cette affaire. Parce que ces personnes qui rejoignent Macron, c'est tout à fait légitime.
Oui,
ils sont libres. On est quand même dans un pays où chacun peut se positionner comme il l'entend. Mais plutôt que de les exclure, c'est eux-mêmes. Ils sont partis, ils ne font donc plus de manière totale le jeu du parti auquel ils appartenaient. Ils se sont exclus d'eux-mêmes, c'était pas la peine d'en faire. Ça a amusé les médias.
Voilà, les médias parisiens, parce que
là on est dans le parisianisme pur et dur.
Voilà, viens, on redescend vite, on prend le TGV,
on voit un peu de ciel bleu.
Et on va vers notre sécurité, car ça c'est important. Et vous le savez, monsieur le maire, vous occupez aussi, et bien sûr, comme madame la sénatrice s'est occupée aussi, avec beaucoup de réflexions sur la participation citoyenne, la sécurité, dispositif. Est-ce qu'il y a des mises en place donc en ce moment? Il y a beaucoup de choses que vous avez préparées et que vous avez donc aussi eu le plaisir de financer, parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, je crois que c'est monsieur le maire qui va en parler un petit peu.
Je vais en parler un petit peu, puis après je laisserai la parole à ma fille. Mais hier, nous avons inauguré la maison de la justice et du droit. J'ai rappelé à cette occasion que Saint-Maximin, depuis les années 2002, ça fait donc maintenant plus de 15 ans, avait mis en place un conseil local de sécurité, suivi d'un conseil local de sécurité pour que nous ayons une vision des animateurs dans les rues et tout, et que, chemin faisant, nous avions constitué une antenne de justice. Antenne de justice, je l'ai rappelé hier, qui avait ceci de particulier, qu'elle était la seule antenne de justice en milieu rural. Alors nous l'avions fait, ça, quand j'étais maire à l'époque, avec un de mes adjoints, le maître Louis Bourgoin, qui avait été d'une aide précieuse, plus les autorités judiciaires, le président du tribunal de grande instance, le procureur, qui nous avait apporté toute leur aide. Et nous avions ainsi constitué un des piliers de la sécurité dans notre cité. Ceci pour en venir à ce qui a été fait par la suite lorsque ma fille était mère, c'est-à-dire les voisins vigilants et la présentation que le lieutenant Gaillard nous a faite l'autre jour d'une nouvelle disposition qui vient compléter le reste. Parce que ce qui nous importe, nous, c'est la sérénité de notre petite ville en premier chef.
Du reste, on va avoir 30 secondes de notre sénatrice, parce que nous avons donc, bien sûr, notre nouveau commandant en ligne.
Ah, très, voilà. Très bien. Ben, on le salue, s'il est déjà en ligne.
Ah oui, eh ben on va, oui, vous allez avoir l'interview dans
quelques... Alors c'est notre nouveau commandant de
gendarmerie,
de brigade, le lieutenant Gaillard, et nous sommes ravis de l'accueillir pour qu'il nous parle de sécurité aujourd'hui. Il a pris ses fonctions en septembre et il est tout juste sorti de l'école, ce qui n'entache en rien les compétences qu'il a.
Et surtout, il a fait quand même une formation exceptionnelle qu'il nous a décrit hors antenne, et nous sommes là très heureux d'avoir un homme de talent et de qualité.
Très présent.
Eh bien, dans le cadre de cette très belle émission, par cette belle matinée, nous recevons le nouveau commandant de la gendarmerie de Saint-Maximin. Mon lieutenant, bonjour.
Bonjour.
Monsieur le commandant, maintenant nous allons un petit peu aller vers ce qui est le plus important peut-être pour les auditrices et auditeurs de Radio Sainte-Baume, c'est de parler du quotidien. Le ministre de l'Intérieur, monsieur Gérard Collomb, lance une concertation sur la police de sécurité du quotidien. Et comme nous avons le plaisir de vous avoir aujourd'hui dans le studio, vous allez nous dire un petit peu ce qui en est. Quelle est la différence entre la participation citoyenne, la police de sécurité du quotidien prônée par ce ministre de l'Intérieur qui, bien sûr, nous laisse un petit peu pantois. Est-ce que cela va marcher?
Alors, si vous voulez, le but, c'est quoi de la participation citoyenne? C'est de remettre le citoyen au cœur de sa sécurité. Il y a un concept qui parle de coproduction de sécurité. Voilà, on est 40 gendarmes pour 47 000 habitants à peu près. Donc, on est assez peu pour tout voir.
Bien
donc
sûr.
Plus on a Dieu, mieux c'est. Plus on a de renseignements, mieux c'est. Donc le but, c'est que les citoyens nous rapportent du renseignement et soient acteurs de leur sécurité.
Mon commandant, question quand même aussi difficile un petit peu pour nous, profanes. La gendarmerie, la police municipale et voisins vigilants seraient-ils associés, et de quelle manière et sous quelle autorité, mon commandant?
Alors le principe de participation citoyenne, c'est une fusée à trois étages. Le premier étage, c'est les citoyens. Donc c'est vous, c'est moi. Je suis dans mon quartier, je vois quelque chose d'anormal, un véhicule suspect, je note ta plaque d'immatriculation. Si j'ai cette information, qu'est-ce que j'en fais? Je la transmets à mon référent de quartier, qui lui aura une adresse gendarmerie, mail, une adresse mail, et nous transmettra l'information. Ensuite, on pourra faire des recoupements et ça permettra d'alimenter nos enquêtes. Voilà. Et bien sûr, tout sera ça anonyme.
Ne craignez-vous pas quelques dérapages ou des abus?
Alors, je dirais que nous, on imagine toujours le pire. On est voilà. Gendarmes, c'est un peu notre métier d'imaginer le pire. Je pense pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, le but, c'est pas que les citoyens se substituent à la gendarmerie. Simplement, être vigilant et ensuite, en cas de problème, je le répète, contacter les services de gendarmerie.
Alors, vous arrivez dans notre région, pensez-vous que vous avez assez de moyens?
Pour être honnête avec vous, je pense qu'on a les moyens de travailler, de bien travailler.
Du reste, nous avons quand même rappelé aussi, en plus, que vous avez, en plus de la tenue normale, réglementaire, vous avez donc toujours le port de ce gilet pare-balles qui est réglementaire, obligatoire
Oui, le port du gilet pare-balles est obligatoire à partir du moment où on sort de la caserne.
Mais maintenant, la délinquance, est-ce que à Saint-Maximin et dans son région, est-ce que la tendance est haute ou basse d'après vous?
Je sais que la tendance se maintient, voire une légère baisse, mais le taux de délinquance reste globalement stable.
D'accord. Alors aussi, on l'a pas quand même souligné tout à l'heure hors antenne, mais aussi il faut quand même rappeler à nos auditrices et auditeurs qu'une maison, ça se ferme aussi.
On en voit, oui, donc il faut être prudent. Il y a quelques règles simples, hein, fermer, prévenir ses voisins, demander à enlever le courrier.
Oui, mais c'est très important de le dire.
Laisser une voiture visible, demander à ses voisins d'ouvrir les volets, etc.
Bien, alors, dans les villes où nous sommes, Saint-Maximin, quand même, avec sa mairie dynamique, alors avec les policiers municipaux et vous, comment ça se passe? C'est vous qui les formez? Vous faites des colloques? Ou alors chacun est de son côté, mon commandant?
Alors, chacun se forme plus ou moins de son côté. Après, de temps en temps, nous accueillons des stagiaires de la police municipale, voir un peu notre métier et apprendre certains réflexes, nos façons de travailler, chose qu'il pourra ensuite réutiliser dans son métier au quotidien.
Bien sûr, arrivent ces fêtes de fin d'année. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour la sécurité de nos concitoyennes et de nos concitoyens?
Alors, ce qui concerne tout ce qui a été mis en place par la mairie, nous avons fait une réunion de sécurité pour étudier un dispositif qui garantira la sécurité des habitants de Saint-Maximin.
Et est-ce que la gendarmerie sera vigilante là-dessus? Est-ce qu'il y aura ce qu'on appelle un petit peu quelques contrôles routiers?
Dites-vous qu'on est toujours sur le terrain, qu'il y a toujours une patrouille dehors en journée et parfois la nuit. Donc on est toujours là.
Merci. C'était donc, bien sûr, avec le nouveau commandant de gendarmerie. Très, très bon, donc, interview. Mais surtout, il faut quand même le rappeler, le souci de générer que cette quarantaine de gendarmes travaillent, bien sûr, 24 heures sur 24 pour notre sécurité et pour, bien sûr, aussi en rendre compte. Parce que la gendarmerie, comme c'est quand même une force militaire, rend compte. Et, bien sûr, on rend compte à monsieur le premier magistrat de la ville. Monsieur le maire, je me retourne vers vous. Alors, la sécurité, la vidéosurveillance, etc. Vous avez quelques, bien sûr, données et quelques informations à nous donner.
Oui, je peux vous donner quelques informations complémentaires. Christine, quand elle était maire, avec son équipe, a initié la mise en place avec la gendarmerie, qui ont suivi le projet, qui ont aidé au projet, un certain nombre de caméras de vidéosurveillance et notre mise en place continue. Parce que c'est un excellent appoint, les caméras de vidéosurveillance, mais ce n'est pas suffisant. Et parallèlement, nous avons toute une équipe d'animateurs qui vont aux sorties des collèges, aux sorties des écoles, dans les quartiers, qui essayent de... à la rencontre des jeunes, essaye de maintenir cette paix sociale à laquelle nous sommes tous attachés. Vous savez que les communes rurales comme les nôtres sont en zone de gendarmerie et que nous sommes très attachés à cette façon de fonctionner parce que les rapports que nous avons avec, si je peux le dire, nos gendarmes sont excellents et les relations permettent, non pas de travailler chacun dans son coin, mais bien au contraire, de regrouper nos forces de façon à être beaucoup plus performants. Parce que, comme le disait un philosophe, seul, on peut peut-être aller plus vite, mais ensemble, on va sûrement beaucoup plus loin. Donc, c'est ensemble que nous essayons de faire les choses. Et puis, je crois que la sécurité, à travers les dispositifs qui ont été présentés, c'est bien l'affaire de tous.
Bien sûr.
On ne peut pas désigner un tel responsable de notre sécurité sans lui apporter l'aide dont il a besoin. C'est de ça qu'il s'agit dans l'affaire. On n'est pas dans un cadre de délation, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est simplement une aide que nous apportons. Et puis, peut-être que tu pourrais, Christine, expliquer comment tu as fait ces mises en place avec ton équipe, à laquelle Anne-Marie et moi appartenons. Et puis après, les choses iront d'elles-mêmes.
Alors, la mise en place, elle s'est faite de façon progressive. Quand on est arrivé en 2014, quand notre équipe est arrivée, qu'elle a été élue pour un programme bien défini, la sécurité en faisait partie, c'était un enjeu. Quoi que me disent les lieutenants, les commandants de gendarmerie qui se succèdent en me disant « Vous avez de la chance, Madame le maire, c'est quand même assez calme, c'est un maxime. » Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut s'endormir. Donc on a commencé par créer donner une dynamique pour qu'il y ait le dispositif voisin vigilant. Beaucoup de quartiers ont adhéré, mais c'est un dispositif qui ne peut pas tout faire tout seul.
Et bien sûr.
Donc nous avons aussi signé une convention avec l'État et la gendarmerie pour que notre police municipale se professionnalise et plus de missions et soit beaucoup plus active sur le territoire. Nous avons recruté de nombreux, je peux le dire, parce qu'ils étaient deux quand on est arrivé, deux policiers municipaux, des policiers municipaux à Saint-Maximin. Aujourd'hui, on a une dizaine, une petite brigade. On va essayer d'arriver à 12, qui correspond à un ratio tout à fait correct pour une ville de notre dimension. Et puis, nous n'avons pas armé notre police municipale au sens strict, mais nous l'avons équipée, bien sûr, de gilets pare-balles. Ça, c'était la moindre des choses suite aux attentats. Mais nous allons les équiper de petites matraques et d'un taser pour ceux qui vont tourner la nuit, puisque de toute manière, nous allons accentuer la dissuasion de délinquance sur la commune en partenariat avec la gendarmerie. Et vous le savez, ou peut-être vous ne le savez pas, il est dans l'air du temps de rétablir la police de proximité. Cette police de proximité est d'abord un outil national, puisqu'il est issu des commissariats, mais ensuite, elle va redescendre sur nos polices municipales.
Eh bien, madame la sénatrice, je tiens à vous le dire, nous sommes déjà, bien sûr, bien informés. On continuera, bien sûr, dans les mois prochains, les semaines prochaines, dans les prochaines émissions, d'en reparler, car, bien sûr, je sais que c'est un souci important. Mais en attendant, on va un petit peu faire un break musical.
Mais avec plaisir, et surtout que c'est toujours le conservatoire, notre conservatoire de la Provence verte, qui a de nombreux talents. Et le premier va s'exprimer avec un morceau qui s'appelle « Block Party ». Et qui sera diffusé et travaillé par les élèves Alex Tracol à la batterie, Emmanuel Rossi à la flûte traversière, Claire Maisonob au chant et à la guitare. Bravo à eux.
She's on.
bien nous retrouvons, bien sûr, de vous à moi, monsieur le maire, et de vous à moi, madame la sénatrice, mais surtout, avec cette sécurité, eh bien, nous étions quand même dans l'actualité, grâce à l'organisation de notre émission. Nous avons la possibilité de retrouver monsieur Vincent Dujardin, qui est représentant du CIQ des voisins vigilants du chemin du Moulin, Thériau-Vierre. Et monsieur Dujardin, en plus, est un porte-parole dynamique. Monsieur Dujardin, bonjour.
Bonjour, monsieur Dujardin.
Bonjour. Bonjour, voilà. Madame la sénatrice. Bonjour, monsieur le maire.
Bonjour, monsieur Dujardin.
Et bien sûr, nous avons avec vous quelques, bien sûr, questions. Et en même temps, nous avons même à côté de nous Anne-Marie Lamia, qui, bien sûr, aussi vous souhaite une bonne journée et vous souhaite, bien sûr, de vous retrouver à la foire aux Santons.
Voilà. Nous y serons.
Nous y serons. Alors, monsieur le président, vous représentez ces voisins vigilants. Quelles sont les situations? Est-ce que tout va bien? Vous êtes confronté à quelques soucis? Et que pensez-vous de tout ça, la participation citoyenne et tout? Alors, allons-y, on vous écoute.
Alors, déjà, j'apporte une précision. Je suis effectivement président de l'association de défense des intérêts de quartier, qui reprend les chemins du Moulin, de l'Ovière et des Terriers. Et le représentant, notre référent concernant les voisins vigilants est M. Jean-Claude Duveau, qui fait partie lui-même de la digue. Donc je ne voudrais pas prendre son rôle. Il n'est pas avec moi, mais il tenait à ce que je le rappelle, et c'est la moindre des choses. Effectivement, le principe de voisins vigilants a été mis en place sur notre secteur, chemin des Terriers, Longuette, en 2013. Notre référent, comme je viens de le dire, est M. Jean-Claude Duveau. Et nous comptons aujourd'hui 62 adhérents. Ça paraît être un chiffre important, c'est encore assez peu, oui. Et nous voudrions, et nous insistons, et nous participons activement par l'intermédiaire de la DIC, Association de défense des intérêts quartiers, et par l'intervention de M. Jean-Claude Duveau, par la publicité qu'il peut en faire pour élargir ce réseau, parce que je crois que Madame la Sénatrice et Monsieur le Maire, par rapport à tout ce que je viens d'entendre, seront d'accord, aussi bien voisins vigilants que la participation citoyenne seront utiles, que le réseau d'adhérents est de plus en plus important.
Alors question, Monsieur Jardin, comment devient-on adhérent? Parce que peut-être vous avez, je ne sais pas, une certaine signalétique, est-ce que vous êtes un petit peu sur les marchés, etc., donner des flyers, donner des messages, ou ça reste un peu intimiste, parce que 60 adhérents pour une très belle région, je trouve quand même que ça fait plus.
Alors, ce qui est important, et vous avez raison de le souligner, ce qui est important, quand je dis 62 adhérents, il ne s'agit pas de la ville ou de la région, mais d'un secteur au sein de Saint-Maximin à Saint-Aubaume. Il y a 62 adhérents sur le secteur des chemins Terriers Moulin Ovière,
tout à
qui
fait.
Est référencé par M. Duveau. Il est évident que sur Saint-Maximin, il y a plusieurs accès au principe de voisin vigilant. Je vais le démontrer en expliquant comment on y adhère. Déjà, comment on le connaît? Bah, évidemment, par toutes les bases d'informations que l'on peut découvrir via Internet, par le site Internet de notre association, la DIC, sur lequel nous insistons sur l'existence et la façon de faire pour adhérer au site de voisins vigilants, et évidemment par différentes manifestations de la ville. Et Madame la Sénatrice a encore fait récemment une réunion avec Monsieur le Maire pour parler de la participation citoyenne et bien entendu des voisins vigilants.
Merci. Alors, je vous arrête un peu parce que moi je suis un petit peu le candidat de l'opération. Dans certaines villes, on voit des postes d'autocollants sur les villages, sur les villas, sur les portails et tout. Est-ce que vous le faites? Comment ça se passe?
C'est le principe. Mmh. Si vous voulez, c'est à la fois le principe et c'est en même temps un grand axe d'amélioration. Mmh. Sur le premier point, quand on va sur le site voisinsvigilants.org, nous pouvons nous inscrire, remplir le formulaire.
Après, ça coûte de l'argent? Est-ce que ça, c'est payant?
2 euros.
2 euros par...
Je vais vous dire.
2 euros par jour, par semaine, par an?
Non. À partir du moment où on va s'inscrire, on va rejoindre une communauté. Par exemple, pour ma part, j'ai rejoint la communauté du chemin des Terriers. J'ai donné une cotisation à M. Duveau qui est une seule fois et définitive de 2 euros. Bah, je vais vous dire, c'est pour le prix de l'autocollant.
J'allais vous dire.
Comme ça, je fais la transition. Autocollant que j'ai collé sur ma boîte aux lettres, comme le font en général tous les adhérents à voisins vigilants. Votre question est très très importante parce que, d'une part, nous pouvons nous faire connaître encore plus parce que nous apposons sur nos boîtes aux lettres les autocollants, et surtout parce qu'il y a ces autocollants. Les exact. Personnes qui auraient de mauvaises intentions s'aperçoivent beaucoup plus que nous sommes vigilants, au vrai sens du terme, qu'il y a une solidarité citoyenne, et en général, on verra après pour les effets, parce que je me doute,
oui,
je me poserai la question.
Non, mais, oui, bien sûr, je vous coupe un peu, parce que le temps nous presse un petit peu. Je voulais surtout, Monsieur Dujardin, parce que peut-être ça pourrait être le thème d'une émission qui serait hors donc cette notre émission générale, parler un peu plus de sécurité, sur approfondir un petit peu. Voudrais quand même revenir sur l'utilité. Est-ce que vous avez été confronté à peut-être quelques malversations ou quelques dégradations quelque part, ce qui vous a permis d'aller vers le référent de gendarmerie, comme nous l'a dit le commandant? Est-ce que des fois ça vous est arrivé de voir quelques petites anomalies, on va dire, une voiture qui a fait des dégradations, oui, quelqu'un qui a voulu sauter une barrière?
Je vous cache pas, en termes de prix sur le fait, par exemple, d'un cambriolage, j'ai de la chance pour l'instant dans mon secteur. On n'a pas eu de cas. En revanche, assez régulièrement, y a la fameuse camionnette blanche qu'on ne reconnaît pas. Et par le biais de ce réseau, on va informer l'ensemble des adhérents de notre communauté. Il est arrivé que, je vais faire très court, il est arrivé que certains adhérents puissent reconnaître ou en tout cas distinguer des personnes qui avaient l'air d'être plus curieuse qu'autre chose, à regarder au-dessus des clôtures, à regarder entre les arbres, et le signaler à l'ensemble de la communauté, ce qui a permis à l'ensemble des adhérents d'être très attentifs et de ne pas se faire cambrioler.
Merci, Monsieur Dujardin, ce qui nous permet, comme nous avons notre rédacteur en chef, peut-être de vous rappeler, et nous avec allons terminer avec, bien sûr...
Merci, Monsieur Dujardin.
Madame, avec plaisir, et je serai à votre disposition.
Merci. Alors, nous allons maintenant retrouver Madame la sénatrice, car, bien sûr, vous nous aviez parlé en termes chaleureux que vous alliez réaliser des réunions de quartier. Où ça en est? Qu'est-ce que cela donne, Madame?
C'est en termes chaleureux, je garde la première partie de la phrase. Alors, ces réunions de quartier, elles sont sacrées depuis 2014, depuis que nous avons été élus, et nous nous rendons très très régulièrement.
Oui, c'est-à-dire maintenant vous avez une autre étiquette, vous comprenez? Alors là, les questions doivent être encore plus larges, plus nationales.
C'est vrai que ces réunions auxquelles nous sommes très très attachés, nous les faisons très régulièrement. Mon agenda est plein jusqu'à la fin de l'année pour de divers quartiers. Mais même si j'ai aujourd'hui une casquette de sénatrice, je reste pour tous les habitants, Madame le maire, c'est sûr, mais Christine, parce que on arrive en tant qu'élu, on cristallise un petit peu les angoisses des citoyens, et puis au bout d'une demi-heure de conversation, nous ne sommes plus que des Saint-Maximinoises et des Saint-Maximinois qui échangeons sur notre ville, qui donnons nos avis respectifs et qui montrent l'engagement des Saint-Maximinoises et des Saint-Maximinois pour leur commune. Et ça, c'est important. C'est ce que nous voyons au travers de toutes ces réunions-là, et Dieu sait si elles ont été nombreuses, cet engagement que je valorise aujourd'hui et dont je remercie les citoyens de ma ville.
Merci, madame. Alors maintenant, je vais me retourner vers monsieur le maire, ainsi que vous-même, madame, vers les nouveaux PAC en mairie. Il faut le dire maintenant, bien sûr, depuis le 1er novembre, les gens souhaitent se PACser. Et alors là, peut-être que les tribunaux ont lâché un petit peu la bride, et bien sûr c'est la mairie qui se retrouve bien sûr à faire ses démarches, et ça doit quand même amener des obligations d'administration, d'administratif, et peut-être du surcroît de travail. Deuxièmement, bien sûr, vous le savez, est-ce que cette opération de PEX a été il y a eu une formation spéciale, et qu'est-ce qui se passe pour cette décharge? Donc on se dit, tiens, tout compte faire, on met tout à la mairie, ben, ça continue, il n'y a plus besoin d'État, alors hein, c'est la mairie qui devient État. Quoi.
Absolument. Alors je vais, si monsieur le maire me le permet, parce qu'on en discutait tout à l'heure justement de ce nouveau dispositif Pax en mairie, qui, je le rappelle, était une prérogative des grèves de tribunal d'instance. Alors demain, on va nous dire qu'on a supprimé des emplois aux grèves de tribunal, qu'on a fait des économies, sauf que, qui c'est qui fait le travail ? La commune. Et je disais à mon père tout à l'heure, la commune va devenir une association loi 1901 avec des bénévoles. Parce qu'avec ce surcroît de travail qui ne nous est jamais compensé, ben nous continuons quand même à avancer, à être l'échelon de proximité et à prendre toutes les compétences qui, normalement, sont des compétences de tribunaux ou des compétences d'État en matière de sécurité et ou d'éducation nationale, qui sont des compétences d'État là aussi, et qui retombent chez nous. Alors oui, il a fallu se former, bien entendu, bien que le personnel de la mairie soit très efficace, on a l'habitude de marier les gens, c'est constitutionnel. Le PAC, c'est bien, c'est une procédure administrative que je salue tout à fait, que je respecte tout à fait, mais qui se fait encore une fois à la mairie. Il a fallu faire une formation parce que il y a la contrainte administrative, la contrainte juridique, et que tout ça, ça ne s'invente pas avec des formulaires, des nouveaux formulaires et une nouvelle façon de gérer les
choses. Et tout ça à la charge, bien sûr, du budget de la mairie.
Ben, à la charge du contribuable, je dirais.
Bien sûr. Alors, nous allons quand même rappeler que le 21 novembre, il y a bien sûr un congrès national des maires de France. Alors, est-ce qu'il y aura la présence de monsieur le maire dans ce congrès ? C'est quand même, bien sûr, important de le savoir que vous représentez quand même une grande ville.
Mais oui, je représente une grande ville et j'en suis honoré. Mais je n'irai pas au congrès des maires de France parce que j'avais prévu quelques réunions dans la commune et que je ne peux pas les différer. Et d'une part, et puis il y a, plus proche de nous, le congrès des maires ruraux, auquel Christine se rendra, c'est-à-dire demain. Demain, parce que moi je n'irai pas, je m'en suis excusé auprès du président André Guillaume, nous avons en même temps l'ouverture de la foire aux Santons. Alors comme je n'ai pas encore les possibilités de faire des hologrammes comme d'aucuns, oui, je resterai ici et Christine ira là-bas.
Très bien.
Mais oui. Juste un mot sur les communes, même si je la rallonge un peu le débat. Quand on voit qu'ici et là, d'aucuns disent les communes, peut-être qu'on pourrait regrouper tout ça, et non seulement ce n'est pas nécessaire de le faire, mais on se rend compte qu'avec les décharges de l'État sur les communes, on se demande qui serait à même de faire tout cela si on supprimait les communes, si on supprimait le véritable échelon de proximité.
Exactement.
C'est pour ça que moi je suis fier d'habiter un pays où il y a plus de 36 000 communes.
Exact. Eh bien, nous allons pour ce faire, bien sûr, rappeler à nos auditrices auditeurs aussi qu'une commune est dynamique et la preuve, vous le dites toujours, monsieur le maire, quand le bâtiment va, tout va et les grands travaux et les projets donc sont nombreux à Saint-Maximin. Alors, il y a des avancements des travaux de la place Malherbe, il y aura bien sûr un complexe multisport, il y a des nouveaux quartiers, il y a de l'habitat, de l'aménagement des chemins communaux. Qui prend le...
Je vais faire une petite introduction, oui. Et puis après, tous ces travaux ont été initiés par l'équipe de Christine après leur élection. Nous sommes maintenant à mi-mandat, et c'est là que ces travaux sortent. Alors, moi je sais très bien toute la gêne que nous apportons à nos administrés à travers les barrières qui sont mises en place, les sens de circulation, mais on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Et là, on casse un peu les pieds. On n'avait pas assez de poules pour avoir les œufs, donc des pieds on en a. Et je suis sûr que lorsque tout cela sera terminé, comme ça a été le cas pour le monument aux morts, chacun trouvera que les travaux sont merveilleux, que notre ville s'embellit, etc., etc. Donc, un peu de patience de la part de chacun. Nous courbons un peu le dos. Nous savons que pour les fêtes de Noël, malgré tout, on a tout fait pour qu'elles se déroulent dans des meilleures conditions et que les travaux s'arrêteront pendant toutes ces fêtes, de manière à ce que la ville retrouve, on installera la patinoire, tout se fera comme les autres années, avec, bien entendu, au milieu de tout ça, le paquet cadeau de Noël, la remise un état, la transformation totale de la place Malherbe. Et voilà pour les travaux. Pour en ajouter encore une petite couche, les archéologues sont sur le point d'achever leurs travaux, puisqu'ils vont en terminer début décembre, ce qui veut dire que quand même on va pouvoir reboucher, libérer, donner des espaces. Les entreprises ont 6 mois pour terminer après, donc ça risque d'aller assez vite, à condition qu'on n'ait pas trop d'intempéries. Et, parallèlement, les fouilles archéologiques ont commencé au Clos de Roc, c'est-à-dire là où sera installé le futur complexe sportif qui a été initié en début de mandat et qui maintenant entre dans une phase active. Mais chacun sait que pour mener un dossier à son terme, eh bien, quelquefois, il faut un peu du temps.
Oui, alors quand même, il faut quand même le rappeler, ce complexe sportif, il y aura donc ces multisports, il y aura du tennis, et il y aura bien sûr de l'athlétisme et bien d'autres choses, comme le complexe aquatique, ce sera une petite merveille.
Oui, alors, pour rebondir sur les travaux qui ont été effectués, aujourd'hui, nous sommes à mi-mandat, nous avons été élus sur des engagements de travaux, et je suis assez fière du fait que tous vont pouvoir être réalisés. Pour ce qui est du désagrément, ce soir, nous avons une réunion avec les riverains et commerçants de la place Malherbe. Nous sommes très proches de la population et chaque fois qu'il le faut, nous allons à leur rencontre pour discuter avec eux et ne jamais imposer, bien entendu.
Écoutez, de toute façon, il faut quand même rappeler que vous êtes aussi une grande ville touristique, vous êtes une ville de passage, et il faut quand même avoir l'art et la manière de recevoir. Quand on a une maison, on la décore, quand on a une villa aussi, on l'entretient, et c'est ce que vous faites.
Mais tout à fait, une ville qui s'arrête d'avoir des projets, c'est une ville qui meurt, et Saint-Maximin doit vivre et bien.
Voilà, et surtout, préparer cet avenir, car il faut le rappeler, et moi-même n'étant pas de la ville même, j'apprécie beaucoup aussi votre commerce et aussi, il faut quand même le rappeler, la gentillesse des commerçants.
Ah oui, voilà. Il faut le souligner,
ça, ce qui veut dire que la qualité de vie, il n'y a pas de l'énervement, il y a beaucoup d'amour et cela fait plaisir. C'est pour ça que je viens avec plaisir vous saluer. Le nouveau quartier Bonneval, l'habitat, tout ceci, les chemins communaux, on en parle un petit
Le nouveau quartier Bonneval, c'est un projet qui d'abord a demandé une maîtrise foncière importante. Cette maîtrise foncière s'achève. C'est un quartier qui se situe dans un endroit très structuré au point de vue des axes routiers, autoroutes, contournements urbains. Il est très bien placé. L'idée qui aujourd'hui émerge, c'est d'en faire un éco-quartier, mais faire surtout une mixité auquel nous sommes très attachés, de l'espace public, de la population, des ménages, des familles, tout ce que ça peut comprendre, et aussi une manière paysagère d'aborder ces nouveaux quartiers.
Ce qui va nous permettre, et nous le souhaitons, bien sûr, de retrouver peut-être dans quelques semaines ou quelques mois aussi, pourquoi pas, avec la complicité de notre conseiller Jean-David, pourquoi pas, de faire quelques opérations sur l'extérieur et que nos émissions sortent un petit peu peut-être des studios, madame.
Avec plaisir.
Et nous irons peut-être avec monsieur le maire et bien sûr vos administrés, voir un petit peu ce qui se passe, ce qui se donnera.
Voilà. Un itinéraire de qualité.
Merci, monsieur le maire. Bien, alors, bien sûr, avec tout ça, nous avons quand même des événements à ne pas manquer. Et bien sûr, vous voulez de suite la musique. Ah, ben on va mettre un petit peu de musique, d'accord. Et alors, on retrouvera bien sûr notre invité après la musique et le flash, c'est bien cela. Alors bien, pas de soucis. Non, mais ne vous en faites pas, mademoiselle. Laurence, elle est là. C'est elle qui mitonne. On l'appelle la Bocuse, la mitonneuse de radio. Allez, bon, vous êtes prête, Laurence?
Second morceau, toujours le Conservatoire de la Provence Verte, Stairway to Heaven de Led Zeppelin, un morceau que j'adore. Oh,
Radio Sainte-Baume.
Radio Sainte-Baume avec de vous à moi, monsieur le maire, et de vous à moi, madame la sénatrice, avec bien sûr un renouveau de, bien sûr, il faut le dire, un renouveau avec les événements de fin d'année. Et oui, parce qu'il faut le rappeler, la fin d'année aujourd'hui à Saint-Maximin, c'est la fête et c'est aussi la fête des traditions. Malgré tous les travaux qu'il y a eu donc dans Saint-Maximin, etc., etc., on va y passer. Eh bien, nous avons quand même appris que les traditions provençales seront bien présentes à Saint-Maximin, que le couvent royal accueillera bien sûr les meilleurs centeniers de France et de Provence. Et pour cela, il nous fallait une ambassadrice, une créatrice et aussi une artiste. Et je tiens à vous le dire, il n'y avait que Anne-Marie Lamien qui fait partie donc de ce conseil municipal qui est bien sûr adjointe à bien sûr tout ce qui est artistique et événementiel. Anne-Marie Lamia, bonjour.
Bonjour Jean-Marc. Voilà. Bonjour aux auditeurs. Je suis le centon de garde aujourd'hui.
Pas du tout. Vous êtes ce que l'on appelle une femme ô combien dynamique. Et d'année en année, bien sûr, il faut le dire, dans vos cartons, vous classez et vous mettez au mieux tout ce qu'il faut pour faire de beaux événements. C'est pour cela qu'il faut quand même le rappeler. Votre foire au centon du couvent royal du 18 au 19 novembre a reçu aussi certaines petites réclamations de mes amis. Pourquoi ça ne doit d'ailleurs pas plus longtemps? Voilà, il y a beaucoup d'amis qui disent ce serait bien, ça commence le vendredi et tout ça. Vous avez pensé, parce qu'il y a tellement de monde qui viennent, vous savez, c'est une très belle réussite, madame Lamien.
Alors c'est vrai qu'on aimerait bien que ça dure plus longtemps, mais il faut prendre quand même en compte que nous sommes dans le couvent royal, qui nous accueille volontiers, mais ils ont, durant la semaine, et aujourd'hui d'ailleurs, un séminaire, et ce serait dommage quand même de bloquer le week-end du couvent, alors qu'ils sont là quand même pour faire entrer un petit peu d'argent dans leur caisse.
D'accord, c'est quand même pour vous dire, madame, combien c'est important pour aussi les touristes et les amis qui viennent de loin, de dire c'est bien. Surtout, en même temps, ce n'est pas sous. Et le choix du couvent royal est très important pour bien mettre en place cette tradition provençale. Et ça, c'est un écrin, le couvent royal.
Oui, j'ai coutume de dire d'ailleurs que la foire au centon de Saint-Maximin, c'est la plus grosse crèche au monde.
Oui.
Parce que le couvent royal, on peut mettre ça, on peut dire que c'est une grande crèche.
Oui, bien sûr.
Et à l'intérieur, bien entendu, avec cette année 45 centoniers, il a fallu pousser un peu les murs.
C'est cela.
Je suis fière de dire que nous avons la plus grosse concentration de centoniers du sud-est. Nous passons devant Aubagne, devant Marseille, devant Arles. On a plus de centons que ces grandes villes et on est prisé de plus en plus. Donc chaque centonier arrivant avec un minimum de 400 ou 500 centons, je vous laisse imaginer la crèche.
Très bien, et surtout quand même aussi le travail en amont pour tous ces camions qui doivent être donc garés, etc., le déplacement et tout. Et tout ceci est mené de main de maître par vous et vos services.
Voilà, c'est mené de main de maître avec les bénévoles de l'Office de tourisme. Hein. Donc on a en charge la technique. Aujourd'hui d'ailleurs, et je remercie Monsieur le maire de son aide technique, puisque les services communaux nous mettent à disposition, évidemment, les tentes, les tables, tout ce dont on peut avoir besoin dans le couvent royal.
Combien de visiteurs? Est l'entrée payante, madame?
Non, l'entrée est gratuite.
L'entrée gratuite.
On y tient, oui, oui. Écoutez, on a essayé de calculer un petit peu, c'est difficile quand les entrées sont gratuites, mais on a essayé de calculer à l'heure et l'on table sur 20 000 visiteurs pendant le week-end.
Très bien. En même temps que le centon, est-ce qu'il y a un petit peu d'édition qui se greffe là-dessus? Il y a un petit peu de librairie qui rappelle...
La librairie, non. Par contre, nous avons des créateurs, hein, des créateurs d'art qui se trouvent généralement dans le cloître, puisque les salles du réfectoire et de la chapelle étant consacrées uniquement aux centonniers. Donc nous avons également des métiers d'art. Et sur le parvis de la plage Jean Saluce, nous sommes quand même un pays d'épicuriens, donc il y a des métiers de bouche sur la plage d'Ansalus.
D'accord. Alors aussi, est-ce qu'il y a des santonniers qui viennent, pourquoi pas, d'Italie ou d'autres régions, donc ce sont que des santonniers provençaux ?
Que des santonniers provençaux et que des artisans.
Que des
artisans. Pas de revente.
Pas de revente, c'est bien sûr.
Pas de santon chinois. Ben oui, ça existe.
Oui, je sais, même tunisien.
Même tunisien, exactement.
Eh bien... Monsieur le maire et madame la sénatrice, donc il faut quand même le rappeler, un programme chargé, et bien sûr vous vous en occupez en même temps. Qui c'est qui s'occupe de l'installation, de la patinoire, le manège et tout ça, c'est toujours vous c'est,
alors, la patinoire, elle est installée, c'est le service jeunesse qui s'occupe de l'installation, enfin, il y a une entreprise, bien sûr, qui s'occupe de la gestion, disons, c'est de ça. La patinoire, durant les 3 semaines où elle est mise en place. La première semaine de son installation est consacré aux écoles, aux élèves des écoles de la ville, hein, qui viennent gratuitement profiter de la patinoire. Et à partir du 15 décembre, elle est ouverte à tout le monde jusqu'au 6 janvier.
Très bien. Là aussi, on connaît le processus, il n'y a pas besoin de rappeler. C'est toujours aussi, on prête les patins, tout ça, il y a toute une mécanique là.
Voilà, pour 1 euro.
Voilà.
Hein, symbolique. Et bon, et comme disait monsieur le maire, malgré les travaux, on est arrivé quand même à maintenir la patinoire parce que il faut quand même que les enfants qui de Saint-Maximin, s'ils n'ont pas la possibilité de partir au sport d'hiver, ont le moyen de s'amuser à 1 euro les 45 minutes. Voilà. Et la patinoire est pleine de toute façon toute la journée.
Oui, ça, vous l'avez constaté l'année dernière.
Oui, c'est vrai.
On était restés, comme on dit, sur le bord. En attendant, au petit matin, en allant boire un petit café avec Gérard David, on a constaté qu'il y avait déjà des camions dans les villes qui commençaient à mettre les illuminations. Ça y est, c'est lâché, là.
Ah oui, là, c'est le service les services techniques, hein, sous la houlette.
Les commerçants
doivent
être heureux, là.
Jacques Freinet. Ah ben oui, bien sûr. Alors, l'illumination, justement, on profite de les illuminations sont mises en route à partir de la foire au Santon. C'est là que Saint-Maximin rentre dans la... Nous, on fait la période calendale un peu avant. Donc, on rentre 15 jours avant dans la période calendale.
Mais de toute façon, il faut toujours un petit peu être en avance. Et c'est, bien sûr, il faut le dire, un des thèmes très importants de madame la sénatrice et de monsieur le maire, toujours être les premiers de cordée. Pour l'heure, donc, bien sûr, pas de problème. Donc, messieurs et mesdames les commerçantes, les illuminations auront bien lieu et les travaux sur la place Malherbe seront donc d'une façon très intelligemment donc arrangés pour que tout se passe bien. Par contre, le 15 décembre, cette remise de colis se fait toujours aux anciens ?
Oui, bien sûr. Alors la remise de colis aux anciens qui est organisée par le CCAS, qui se fera dans la mairie comme les années précédentes. Je tiens à rappeler aux personnes qui sont âgées de 75 ans, à partir de 75 ans, de se rendre le plus rapidement possible pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, au CCAS dans la mairie, pour s'inscrire, parce que, bien entendu, on ne peut pas commander moult colis, et après, voilà, on est contre, on veut donner des cadeaux intéressants à nos anciens, et pour cela...
Un peu de logistique.
Il faut un peu de logistique, voilà. Leur D'accord. permettre d'avoir le plus beau, mais qu'il n'y ait pas de gaspillage.
Bien sûr. Il faut quand même le rappeler, bien sûr, nous avons des fois quelques... On nous écoutons comme ça dans les rues. Il y a une opération qui s'appelle J'y vais et toi. Alors, on m'a dit, c'est des associations, ils se mettent dans les rues. Il faut quelque... Pourriez-vous nous expliquer un peu, nous recadrer ?
Alors, le nom de J'y vais et toi, je crois que M. Lanfranchi est pour quelque chose, d'après ce que j'ai entendu hier soir. cette manifestation qui a été à l'initiative de notre groupe, de la mairie, donc lorsqu'on est arrivé en 2014, donc c'est sa 4e année. Elle est faite sous la houlette de monsieur Serge Langlais qui malheureusement n'a pas pu être présent aujourd'hui avec nous. Alors cela concerne, ce sont les associations de Saint-Maximin.
D'accord.
Qui s'installent dans l'après-midi sur le parvis de la basilique et dans les rues de la ville et qui proposent aux visiteurs à partir de 19h des plats à des prix très modiques. Alors on passe de la soupe vietnamienne à la crêpe en passant par les frites, le gibassier, le gâteau, enfin voilà. Et vous faites, les gens se baladent d'un stand à l'autre et font leur petit repas. Et je peux vous assurer que malgré que la date, le 16 décembre, il fait un peu frais, Il y a énormément de monde parce que l'ambiance est conviviale.
Et chaleureuse. Il faut quand même aussi le rappeler, c'est que, disons, ça continue et ça perdure l'opération du Forum des associations. Comme ça, au fond, il y a le Forum des associations qui se fait sur le plan national. Et là, vous êtes dit en faisant... Et ben, monsieur le maire, je me retourne vers lui, dit j'y vais et toi, et dit écoutez, il faut aussi vous y mettre les associations, il n'y a pas qu'une fois par an, et il arrive, disons, les fêtes de fin d'année, et pour ce faire, comme vous êtes en train de dire, ben pour un petit budget, et surtout pourquoi toujours que madame soit au fourneau, ce soir-là, eh bien monsieur et toute la famille sortent et peuvent donc faire une dinette sympathique. Voilà une idée très sympathique, et surtout, j'y vais et j'y serai. Rappelons donc la date, le 16 décembre. N'oubliez pas, bien sûr. Alors, ceci va donner un avant-goût, bien sûr, pour les fêtes. Et vous avez le marché de Noël au centre-ville aussi, madame.
Et c'est le lendemain.
Tout s'enchaîne. Voilà. Tout s'enchaîne.
Hein. Écoutez, je pense que je vais mettre un lit à la mairie, je me semble, ce week-end.
Je crois que votre fan club sera aussi à la mairie. Là. Il va falloir agrandir la mairie, madame. Bien, alors. Bon, eh bien, dans tout ça, bien sûr, dans ces associations, on va revenir un peu d'animation. Vous avez donné le côté épicurien, mais il y a un petit peu de musique, il y a des associations musicales dans...
Alors, pour la soirée J'y vais et toi, cette année, nous accueillerons une classe musique du lycée Janetti.
Très bien.
Qui interprétera des chants de Noël.
Bien sûr.
Et le lendemain, pour le marché de Nocturne, c'est un groupe de musique russe. Cette année, notre marché de Noël, eh ben, écoutez, on va partir un petit peu, on va partir en Russie.
Très bien. Voilà. Alors, on va rappeler un petit peu, surtout les horaires du marché de Noël, madame, si vous me permettez.
Alors, le marché de Noël, ce sera de 9h à 18h et je voudrais profiter pour remercier tous les commerçants du centre-ville qui ce jour-là sont ouverts, sont présents et voilà, on le fait aussi pour eux, hein, ça leur permet quand même d'être de
18h et plus, un peu plus, donc il n'y a pas...
Vous savez, le 17 décembre, il fait un peu frais.
Ah, c'est un maximum, oh, ça m'étonnerait quand même, il fait toujours beau.
Non, 18h, tant de toute façon, personne ne s'en va avant que tant qu'il y a du monde dans les rues.
Très bien, soucis. Et surtout que donc notre gendarmerie ainsi que notre police municipale, ainsi que bien sûr tous les bénévoles de la sécurité seront là aussi pour compléter la présence sécuritaire dont on a besoin, malgré donc des fois quelques petites erreurs de certaines personnes. En attendant, madame, je tiens à le rappeler, foire donc au Santon,
ce week-end,
les horaires...
Les horaires, 9h, 19h pour le samedi et 9h, 18h pour le dimanche.
Bien. On avait oublié un petit peu, pour les parkings, vous avez fait de la signalétique, vous avez préparé un petit peu quelques panneaux, parce qu'il faut ne pas oublier qu'il n'y a pas que nos amis de Saint-Maximin, mais on vient de loin, madame.
Oui, tout à fait. Les parkings sont signalés de toute façon. Mais il faut savoir qu'il y a tellement de monde que nous allons faire un petit tour. On va visiter un petit peu les parkings le dimanche, voir un petit peu comment ça se passe. Et je peux vous dire qu'il y a des gens garés à Super U. Merci, hein, monsieur Abkarian, d'accueillir les véhicules des visiteurs. Parce que bon, on a la chance quand même que nos supermarchés, nos centres commerciaux sont très proches du centre-ville. Donc ça permet quand même de faire... parquer beaucoup de véhicules ce week-end-là.
Eh bien, on vous en remercie. Je pense que, bien sûr, toute cette organisation avec les bénévoles vont avoir un grand succès. Et ce grand succès, certainement, sera relayé par la presse quotidienne ainsi que, bien sûr, notre radio. Et pour l'heure, bien sûr, nous allons, mon cher... Noël, c'est notre rédacteur en chef qui est là, il travaille, il est terrassé, dire un petit au revoir à madame la sénatrice et à monsieur le maire, et bien sûr donner un rendez-vous. Alors, une petite conclusion, madame.
Bien sûr, avec plaisir. Avant de conclure, je voudrais juste remercier toutes les personnes qui font que Saint-Maximin est magique pendant la période de Noël. Hein, alors, au travers d'Anne-Marie Lamia qui s'est longuement exprimée avec beaucoup d'ardeur, Jacques Frenet, Hélène Henry pour le Centre communal d'action sociale, les cadeaux aux personnes âgées, Serge Langlais pour la soirée J'y vais et toi, et les services de la mairie, bien entendu, hein, tous les services, services techniques, services police municipale, et tous ceux qui œuvrent à faire que Saint-Maximin reste le plus joli petit coin de Provence à Noël. Alors, je vais dire au revoir à toutes les auditrices et tous les auditeurs. À très bientôt, puisque nous allons faire une émission à l'extérieur.
Oui.
C'est ça, peut-être.
Ce sera le mercredi 20 décembre, je pense, à 11h. Et on fera un spécial fête de fin d'année. Et je pense que, monsieur le maire, vous nous accompagnerez, comme vous avez dit, dans le circuit.
Mais absolument. Je serai à vos côtés, dans la rue de Gaulle, dans la rue de la République. Nous essaierons de refaire vivre ce moment festif de Noël à travers l'émission que nous offre Radio Sainte-Baume dans les rues de notre commune. Et puis, Noël approchant, on a essayé de mettre en place les activités dont on a longuement parlé pour que enfants et grandes personnes aient cette espèce d'esprit de Noël pendant cette période qui nous arrive et où les difficultés, on essaye un peu de les oublier pour laisser la place à un petit bonheur. Comme disait Félix Leclerc, c'est un petit bonheur.
Bien sûr, et une plénitude.
Absolument. Donc, il n'y a pas de raison de s'en priver. Et j'y vais, toi, vous y serez avec moi.
Eh bien, mesdames et messieurs, je rappelle que, bien sûr, c'était un de vous à moi exceptionnel, bien sûr. Et rappelons que pour la prochaine émission, nous aurons comme guide un gilet jaune griffé Anne-Marie Lamia, parce que c'est elle qui donc va nous faire en couture quelques petits gilets numéro 5, bien sûr. Voilà. Donc, Anne-Marie Lamia, merci. Oui, monsieur le maire.
Oui, nous arrivons à la fin de cette émission. Saluons nos amis de notre village, de notre ville, et remercions Gérard David du programme qu'il nous concocte à chaque fois pour cette émission. On avait peur de ne pas tenir une heure. On a fait bien plus qu'une heure, on s'en excuse, mais enfin pas vraiment, on s'excuse pas vraiment. Je vous le dis tout net, on est heureux de pouvoir parler, on est heureux d'être à Radio Sainte-Baume, et c'est là que finalement, nous nous retrouvons tous ensemble.
Merci à Radio Sainte-Baume de nous accueillir, à très bientôt, et au revoir à toutes les auditrices et à tous les auditeurs.
Merci à vous tous et toutes, et puis bien sûr, je pense que dans les semaines à venir, nous aurons des nouvelles de l'agglo. Au revoir.
Radio Sainte-Baume 88.9.